Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Jérémy Boucher.
Bonjour à toutes et à tous. Au cœur de la manifestation Quai du Polar, qui se tient actuellement à Lyon pour une 19e édition toujours aussi haut de gamme et internationale, en présence de 150 auteurs venus des quatre coins du monde, je vous propose aujourd'hui une rencontre avec l'une des invitées du festival et qui justement vient d'outre-Atlantique, du Québec exactement. Bonjour André A. Michaud.
Bonjour Catherine.
On vous a découverte en France en 2016 avec Bondré, un roman noir multiprimé. Et depuis, on vous suit aux éditions Rivage, qui vous publie ici. Et après Rivière tremblante, Tempête, ainsi que Route secondaire, d'une nature un peu différente, nous en reparlerons. Voici donc votre nouvelle fiction qui paraît sous le titre « Proie au pluriel », puisqu'en effet, il y a plusieurs victimes. Un roman qui commence avec légèreté, comme la chanson « Promenons-nous dans les bois », avec trois adolescents qui partent faire du camping en forêt. Très vite, ça tourne au projet Blair Witch, ce film d'horreur qui a traumatisé toute une génération. Et finalement, ça se lit aussi comme un conte entre le petit poussé, le petit chaperon rouge ou encore Hansel et Gretel. Car c'est bien d'enfants perdus qu'il s'agit, dans un milieu naturel dangereux, à moins que ce ne soit l'homme qui soit le véritable loup de l'histoire. Avoir trois petits points. Pour commencer, André A. Michaud, une question toute simple. Se perdre en forêt, ça vous est déjà arrivé ou c'est l'une de vos plus grandes peurs ?
Ça ne m'est jamais arrivé et ce n'est pas une de mes plus grandes peurs, pas du tout. Donc j'aime bien me promener en forêt et bon, je fais attention, c'est sûr, je ne vais pas aller me balader dans des coins perdus et des forêts immenses où je risque de ne pas me retrouver. Ma plus grande crainte, c'est de rencontrer des hommes en forêt. Ça, c'est... La forêt n'est pas dangereuse en soi. Ce sont les hommes qui la traversent qui peuvent être dangereux.
C'est en effet tout le sujet du livre ici. Mm-hmm. Donc on fait connaissance avec vous de ces trois jeunes gens, Judith, Abigail et Alexandre. Ils ont 16 ans environ et ils partent pour un séjour au Grand Air. C'est un peu une session d'apprentissage, un rituel de passage vers la vie adulte. Sauf que très vite, ils ont l'impression d'être surveillés. Il faut dire aussi que Alex raconte une histoire de fantôme qui va un peu les déstabiliser. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette mise en place, André A. Michaud ? Que l'inquiétant reste au début en effet mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est l'ennemi. Est-ce que c'est un ennemi intérieur ? Est-ce que c'est une bête, un ogre, un être humain ? C'est cette incertitude ?
J'aime bien y aller par petites touches, c'est-à-dire faire sentir au lecteur qu'il va se passer quelque chose sans pourtant nommer la chose. Et j'utilise souvent ce procédé-là dans mes romans. Bon, j'annonce un malheur à venir sans pourtant le décrire. Et c'est ce qui se passe avec ces trois adolescents. Ils commencent à sentir que quelqu'un probablement ou qui les observe, mais sans avoir de certitude. Mais l'impression d'être épié s'alourdit d'heure en heure et de jour en jour jusqu'à ce qu'il se produise des choses que je ne révélerai pas ici.
Moi non plus. Alors c'est vrai que le paranormal, je mets peut-être ce mot entre guillemets, est sous-jacent dans vos romans. Est-ce que c'est lié à vous, André A. Michaud, ou est-ce que c'est lié peut-être aussi à cette nature toujours très présente dans vos livres, où il peut y avoir aussi la neige, la rivière, ici la forêt ?
C'est sûr que les éléments sont très... La nature et les éléments orage, tempête, sont très présents dans mes romans, qui sont une force agissante, si on veut, au même titre que les personnages, et parfois davantage. Et dans le cas de Proie, la nature est omniprésente, mais ce n'est pas elle qu'il faut craindre, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt ce qui peut s'y infiltrer. Il y a parfois des petits éléments surnaturels qui se glissent dans mes romans. Je ne suis pas très paranormale en général.
Mais bon, quelle différence vous faites entre paranormal et surnaturel d'ailleurs ?
C'est que le surnaturel a quelque chose qui appartient plus. Bon, dans mon esprit, là, je ne suis vraiment pas une spécialiste et peut-être que la distinction que je vais faire n'est pas juste. Pour moi, le paranormal, c'est plus ce que l'esprit va produire ou ce que, alors que
le surnaturel.
Le surnaturel, c'est plus lié aux objets, à ce qui est extérieur aux personnes. Je pense que ça se rapproche beaucoup du conte. Quand on parle du conte, il y a souvent des éléments de surnaturel et non pas de paranormal. Qui dit paranormal dit phénomènes qui souvent sont liés à l'esprit humain, je crois. Mmh. Mais des spécialistes me contrediraient probablement. Mais...
Donc ici, c'est plutôt surnaturel selon vous. Oui. Puisque vous reparlez du conte, en effet, que j'évoquais dès la présentation de ce roman, est-ce que ça a été une source d'inspiration, ce petit poussé, ce chaperon rouge, Hans et Gretel?
Disons que je m'en sers un peu de façon ironique dans le roman, mais le mécanisme de la peur chez mes personnages est souvent lié à ces contes-là, tous ces contes bon, que les gens de ma génération ont beaucoup entendu. Mais dans le roman, je fais aussi allusion à Deliverance ou Délivrance, le film de
John Boorman.
Parce que les jeunes ont vu le film et à un moment donné, ils font un parallèle entre la situation qu'ils vivent et la situation des quatre protagonistes du film.
Il faut raconter en deux mots d'ailleurs l'histoire de ce film pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas vu. Mmh. Ce sont plusieurs hommes qui partent en forêt aussi. Alors eux, ils sont sur un canoë, n'est-ce pas, kayak?
Oui, et ils descendent une rivière qui va bientôt être harnachée. Et c'est la dernière occasion qu'ils peuvent avoir de descendre cette rivière, sauf que il y a des gens dans les bois qui les surveillent et qui n'aiment pas leur présence sur la rivière.
Et ça ne va pas très bien se passer?
Pas du tout.
C'est un euphémisme. Et cette nature qui est si importante dans vos livres, Andréa Michaud, vous vivez à côté d'une forêt, vous aussi? Vous vivez où au Québec?
Je vis en campagne, entre deux villages, si on veut. Puis bon, derrière moi, c'est la forêt. Derrière la maison où j'habite, c'est la forêt. Mais ce n'est pas une forêt qui s'étend sur des kilomètres, là. Mais il y a la forêt partout autour, à gauche, à droite, devant, derrière.
Et une rivière?
Non, il n'y a pas de rivière. J'aimerais bien, mais il n'y a
pas de rivière. Parce qu'ici, la rivière, évidemment, est très importante. La rivière brûlée, d'ailleurs. Oui. C'est intéressant, ce nom, hein? Un oxymore.
Oui, tout à fait. L'eau est toujours importante dans mes romans. Il y a toujours un cours d'eau qui va être un des éléments principaux du roman. Là, c'est rivière brûlée. Pourquoi rivière brûlée? Parce qu'il y a très longtemps, tous les arbres près de la rivière avaient brûlé. Il y avait eu un immense incendie de forêt qui s'était rendu jusqu'à la rivière. Et puis, la rivière a gardé ce nom, même si la végétation a repoussé depuis.
Et c'est là que les trois adolescents sont donc perdus. Et en alternance de ces scènes de forêt, vous racontez, Andréa Michaud, les scènes du village. Avec d'abord une vie normale, il y a même une foire où tout le monde se réunit, la vie continue. Et puis, avec les jours qui passent, le non-retour des enfants, évidemment, monte l'inquiétude. Mmh. Commencent les recherches, les battues. Des découvertes macabres ou pas. D'ailleurs, ça va être compliqué de continuer de parler du livre, hein, André Michaud, hein, sans dévoiler l'évolution de la situation. En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'ici, ce qui est très important, c'est de dire que la souffrance est des deux côtés. À la fois du côté des jeunes gens qui sont perdus, et du côté des parents.
Des parents, bien sûr.
Ils endurent une souffrance terrible. C'est comme si on leur avait arraché un bras. Mm-hmm. Ça, c'est important pour vous. Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, hein, que vous faites ce miroir.
Je l'ai fait un peu dans Rivière Tremblante, les enfants qui disparaissent et ce que ça a comme conséquence sur les parents. Ici, ce ne sont pas des petits-enfants. Bon, ce sont des adolescents, mais quand même, ce sont encore des enfants. Et oui, je voulais montrer comment les drames qui vont frapper les jeunes affectent aussi toute une communauté, à commencer par leurs parents. Et au début, bon, il y a l'opposition entre ce qui se passe en forêt et ce qui se passe au village. Il y a un peu de légèreté des deux côtés. Ensuite, au village, bon, c'est encore la légèreté. Les gens préparent la foire, on s'amuse, on danse. Et... Alors que dans le bois, ça commence à moins bien aller. Et c'est ça, là, on voit évoluer un peu l'angoisse des deux côtés jusqu'à ce que, bon, les gens au village apprennent donc qu'il s'est passé quelque chose de grave en forêt.
Et les deux histoires vont commencer aussi à se réunir d'une certaine façon. Mais qu'est-ce qui vous fascine autant dans cette disparition d'enfants, Andréa Michaud?
Bon, je pense que c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver.
Donc ça, pour le coup, c'est une angoisse. Pas vous perdre en forêt, mais la disparition d'enfants.
Oui, c'est... Bon, je n'ai pas d'enfants, mais si j'en avais, je pense que ce serait ma pire angoisse. Chaque fois que j'entends parler d'un enfant qui a disparu, pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. J'en parle parce que ça arrive, parce qu'il y a des gens qui doivent affronter cette douleur, cette perte incroyable. Et,
On va continuer de parler de Proie avec vous, André Amichaud, votre nouveau roman. Après une pause musicale, et précisément dans ce livre, j'ai vu plusieurs allusions alors à la chanson des Doors, évidemment, Hello, I Love You. J'ai reconnu aussi des références à Willie Nelson et son titre Shotgun Willie. Vous citez Bohemian Rhapsody, de Queen, petite évocation aussi de Amy Winehouse, et bien sûr ce film Délivrance qui est cité à plusieurs reprises, dont on pourrait écouter un extrait de la bande originale. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, André Amichaud ?
Ah ben, tous ces choix.
Ça va être compliqué ?
Non, bah, ah là là, c'est difficile. Bon, allons-y avec Hello, I Love You.
Les Doors.
Oui, parce que c'est un peu la chanson que les jeunes chantent entre eux quand ils pensent à l'amour dont ils rêvent.
Effectivement. Donc, on écoute The Doors. Bien l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI pour une émission aujourd'hui spéciale à l'occasion de Quai du Polar qui se déroule jusqu'à dimanche soir à Lyon et dont est invité André Amichaud que je reçois aujourd'hui pour son nouveau roman intitulé Proie, et je précise avec un S, aux éditions Rivage. Une fiction, on l'a dit précédemment, qu'on lit le poil hérissé de peur et d'inquiétude pour les jeunes gens partis en forêt faire du camping et qui se retrouvent sous la menace d'un grand méchant loup, entre guillemets, qui s'en prend à eux. Et pendant toute une année, on va suivre les événements et les conséquences de leur disparition du point de vue des adolescents, mais aussi de leurs parents, de leur entourage, voire du ou des attaquants. Je me demandais, André Amichaud, est-ce que pour vous, la forêt serait aussi une métaphore de l'écriture ? Par exemple, on y entre sans savoir ce qu'on va y trouver. Plus on s'enfonce, plus on est peut-être rattrapé par une forme d'angoisse. Ou au contraire, c'est un labyrinthe qu'on construit sciemment pour perdre le lecteur ?
Bah, je trouve votre description très convaincante. J'ai jamais envisagé la chose de cette façon. Mais en effet, oui, on peut comparer la forêt à l'écriture. Comme vous l'avez dit, bon, on entre dans un lieu où il n'y a pas de ligne droite. On ne sait pas où on s'en va. Il faut faire des détours et il faut parfois revenir sur ses pas. Et ça illustre bien ce que peut être l'écriture aussi.
Et quand vous avez commencé Proie, vous étiez dans quel état d'esprit ? Dans quelle forêt entriez-vous ?
J'entrais dans une forêt de mon adolescence. D'ailleurs, l'anecdote à l'origine de ce roman, c'est que, bon, je me suis souvenue d'une fin de semaine en forêt avec une de mes bonnes amies et son petit copain de l'époque. Et puis, on était allé, bon, dans un camp en pleine forêt, mais c'était l'hiver. Et Marie-Josée l'a mis en question, m'a rappelé un peu cette fin de semaine-là. Et en me parlant des peurs qu'on avait eues durant la nuit, alors que moi, j'avais complètement oublié ça, j'avais gardé que des aspects positifs de ce séjour en forêt. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un bon point de départ pour un roman. Sauf que, bon, j'ai transposé l'histoire en été, parce qu'en hiver, avec les pistes dans la neige et tout, ça ajoute un coefficient de difficulté. Alors, et puis bon, j'ai transposé l'histoire en été, et puis c'est ça, j'ai remplacé le petit ami par un ami commun, les deux jeunes filles.
Donc c'est bien inspiré quand même de quelque chose que vous avez un peu vécu, Andréa Michaud.
Oui, plus ou moins. Je pense que Marie-Josée l'a vécu plus intensément que moi, mais je me suis dit, il y a la matière à créer une intrigue autour de cette peur qui peut arriver quand on est en forêt. Parfois pour des bagatelles, on entend craquer dehors, mais ça peut être un animal tout simplement, ça peut être des branches, ça peut être le vent. Mais bon, on sait que les peurs enfantines sont ancrées très profondément en nous et elles ressurgissent à tout moment.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de Proie, Andréa Michaud, justement le début du roman, où les trois jeunes gens ont déjà, je crois, passé une nuit en forêt. Et voilà ce qui se passe les heures suivantes.
La clairière était vide. Le feu éteint, les tentes silencieuses. Où était passé Alex, Alex le solaire, Alex le matinal, qui se faisait une fierté de se lever avant le point du jour et de battre tous les coqs du canton à la ligne d'arrivée. Sans prendre le temps de réfléchir, Jude s'était rué vers la tente rouge. On avait précipitamment ouvert le battant et avait rampé à l'intérieur. Alex, en apercevant son visage au-dessus du sien, prêt à lui faire le bouche-à-bouche pour le sortir des vapes où il voguait sereinement, avait poussé un « Wow, les nerfs, qu'est-ce qui se passe? »« Il se passe que t'es pas levé », avait répondu Jude. « Comment ça se fait? Je pensais que t'avais perdu la carte il y a 8 heures. » Alerté par la réaction d'Alex, Abe avait répliqué vite fait. « Êtes-vous viré fou? » s'était-elle exclamé en pensant sa tête échevelée dans l'ouverture de la tente. Devant l'allure d'Abe, Jude avait échappé un petit rire, une sorte de renaclement contenu. « Tu fais dur, Abby, baby. » Et Alex s'était joint à elle. On dirait une gorgone. Puis ils avaient tous deux éclaté de rire pendant qu'Abe s'efforçait de faire des yeux de gorgone pour ce qu'elle savait de ses créatures. Et ça avait été le fou rire, le branle-bas de combat, une variante de la traditionnelle bataille d'oreiller sans oreiller, une illustration de l'expression « trois fous dans une poche » avec les vêtements qui volaient dans l'espace exigu de la tente, les bras et les jambes qui s'en mêlaient, les maudits innocents, tu viens de me mettre un coup dans l'œil. Malgré les taloches qu'ils recevaient l'un l'autre, les rires n'avaient pas cessé. Ils avaient duré jusqu'à ce que la tente s'effondre et au-delà, alors que les trois amis s'extirpaient du foyer qui les enveloppait. Tassez-vous, je vais pisser dans mes culottes. Enlève ton genou de là, j'étouffe. Et qu'ils se ramassaient sur le foin battu, sous le soleil absorbant la brume. Trois fous sortis d'une poche et se retrouvant tels qu'ils étaient, portés par l'insouciance et venant de passer un pacte tacite. Pas de face blême aujourd'hui, pas de récit horrifiant, pas de farce plate. Seulement la fraîcheur de la rivière, puis l'expédition en dehors du sentier des ravages qu'ils avaient projeté d'effectuer, et des rires encore, et des regards qui signifieraient « Vous êtes pas sur table, mais tabarnouche que je vous aime, et vous autres ».
Littérature sans frontières.
Merci beaucoup, Andréa Michaud, pour cette lecture. On est encore dans le temps de l'insouciance. Malheureusement, tout ne va pas durer. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant aussi dans ce passage, c'est qu'on entend votre langue, bien sûr. avec presque deux niveaux. Il y a le temps de la narration, qui est dans un français plutôt académique, je dirais, et puis le temps des dialogues, où là, c'est la langue québécoise dans toute sa splendeur qui explose. Vous sentez comme ça ces deux niveaux de langue?
Oui, bien sûr. Et puis, moi, ça m'apparaît important d'opposer ces deux niveaux-là, c'est-à-dire de que les dialogues soient en langue québécoise. De toute façon, ils me viennent naturellement en québécois. Alors, je me censure pas, bien au contraire, parce que c'est comme ça qu'on parle chez nous, particulièrement dans les moments où les émotions sont un peu fortes, le naturel revient au galop. Et puis, pour moi, c'est une langue belle, c'est une langue qui mérite qu'on la préserve. Et c'est pour ça que dans mes romans, les dialogues sont en québécois.
Et on en est bien content. Après, la question que je me pose, Andréa Michaud, c'est est-ce que là, on est dans du roman noir? Pas du roman policier, parce qu'on ne suit pas au sens strict du terme des enquêteurs. Mais est-ce que vous, d'ailleurs, vous définissez ça comme du roman noir ou comme du roman tout court?
C'est très difficile. J'ai toujours beaucoup de difficultés à répondre à cette question parce qu'on me la pose assez souvent et pour cause.
Mais qui vous la pose, les Français ou les Québécois?
Les deux.
D'accord.
Parce que je suis un petit peu à la limite entre un roman-roman, si on peut dire, et le roman noir, le polar, parce que j'utilise des éléments du polar dans mes romans, mais vraiment à ma façon, j'utilise les codes pour les réécrire, si on veut, pour les adapter à ma façon de voir les choses. Alors, on ne se retrouve pas dans des polars traditionnels. Si on veut lire un polar traditionnel avec une enquête en bonne et due forme, on va être peut-être un peu déçu. Il y a une enquête d'emploi, mais qui n'est pas le point central du roman. C'est-à-dire que c'est pas tant l'enquête que la fouille, que la battue dans la en forêt par les policiers, par des gens du village qui occupent cette partie-là, si on veut, qu'on pourrait dire enquête, parce qu'en même temps qu'il y a fouille, les enquêteurs essaient de trouver des indices, de voir qui pourrait être derrière les événements qui se sont produits. Mais non, ce n'est pas du polar dans le sens traditionnel. Et au Québec, mon éditeur Québec-Amérique ne met rien sur la couverture, il met roman, tout simplement, parce que je me situe un peu à la limite de genre. Alors, voilà. Mais on me considère quand même au Québec, du côté des médias, comme une écrivaine de polar.
Alors, Mais c'est vrai qu'il y a un effet, comme vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre de codes que vous reprenez. La disparition, la malveillance, voire l'assassinat. Hein. Et il y a aussi quelque chose un peu d'obsessionnel. Je dis ça notamment parce que votre livre précédent, Route secondaire, il était question du personnage qui obsède l'auteur, vous en l'occurrence. Vous diriez que vous êtes en effet une écrivaine obsessionnelle ou obsédée par un certain nombre de choses, de thématiques?
Ben, je dirais plus ou moins. C'est des thèmes qui reviennent. Mais ce n'est pas nécessairement une obsession. Ce sont des sujets que je n'aurais jamais fini de creuser. Alors, je les reprends et j'essaie d'aller plus loin dans mon analyse, si on veut. C'est peut-être pas le bon terme, là, mais dans ma compréhension de ces sujets-là. Dans Route secondaire, bon, je me suis beaucoup amusée. Bon, c'est un roman sur l'écriture, où l'écrivaine, en l'occurrence moi, va à la rencontre d'un de ses personnages, c'est-à-dire qu'elle croise un de ses personnages et elle se reconnaît, et elle voit son double, et le double est aussi un thème qui revient dans plusieurs de mes romans, particulièrement dans les premiers romans, mais dans Route secondaire, c'est noir sur blanc. Il y a cette question du double et de l'écriture au jour le jour, et de la façon dont écrivaine et personnage vont se rapprocher, s'éloigner, se superposer, et... pour moi, c'est un jeu qui tourne un peu au polar parce que le personnage a un passé trouble que l'écrivaine découvre petit à petit. Alors, on va un peu à rebours dans ce roman-là quand il s'agit de l'histoire du personnage, parce qu'on ne saura qu'à la toute fin ce qui lui est arrivé et ce qui a déterminé son destin.
Ce que je comprends, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de frontières chez vous. Hein. Que ce soit dans la littérature, on disait à la lisière du noir ou du pas noir, de la fiction ou de la réalité, où à la fois vous vous mettez en scène mais face à un personnage complètement romanesque. Et ici, même la forêt, on ne peut pas dire que ce soit une frontière parce que l'histoire ne va pas s'arrêter au moment même, entre guillemets, de la résolution. Comme si les fantômes continuaient de hanter vos personnages, même si ils ont eu peut-être la chance d'en sortir. L'histoire ne finit jamais, en fait. On ne sort jamais de la forêt.
Je pense pas. Mais en fait, il y a une expression au Québec, on dit souvent, on n'est pas sorti du bois. Et c'est ce que je dis, moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir du bois. Je pense que je vais y rester toujours.
Donc, comme vos personnages?
Fort possible, parce que là, j'avais commencé un roman qui se situait en partie en ville. Je voyais ça comme un défi. J'ai pas de difficulté à parler de la ville, sauf que dans le fond, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors, je l'ai laissé de côté, et puis je suis retournée dans le bois.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que non seulement donc, l'histoire ne finit jamais, on ne sort pas du bois, donc ni vos personnages, ni vous, visiblement. Mais ça soulève aussi la question, je trouve, d'un sujet très important qu'on n'évoque peut-être pas forcément... dans la littérature, c'est le syndrome, entre guillemets, du post-traumatisme. Dans les romans, une fois que c'est résolu et tout va bien, quoi. Sous-entendu, ils vécurent heureux et beaucoup d'enfants. Avec vous, on voit bien que ça ne s'arrête pas et qu'il y a peut-être quelque chose à travailler là, sur cette invisibilité de la souffrance quand il y a eu un retour à la normale.
Je pense que quand on vit des choses comme mes personnages en vivent, il y a des blessures qui ne se referment jamais. Et on est marqué à vie, on est marqué à tout jamais. Les jeunes de proie le sont. Les personnages de Rivière Tremblante qu'on a évoqués tout à l'heure le sont aussi. Et c'est le cas des personnages de plusieurs de mes romans qui ne reviennent jamais indemnes des événements qui les ont frappés.
Et vous, vous disiez que vous étiez retourné dans la forêt, mais sinon vous sortez de cette forêt, de l'écriture de cette fiction, comment ? Un peu chamboulé, un peu soulagé ? Dans quel état vous, vous êtes ?
J'essaie de garder une certaine distance entre le texte et moi, parce que compte tenu de la noirceur des sujets que j'aborde, il faut que je me protège un petit peu. Alors, j'essaie de garder une distance, et c'est pas facile de le faire toujours. Il y a des fois où je me laisse entraîner dans tout ça, et quand j'ai écrit Route secondaire, je disais, en québécois encore, motadine que j'ai braillé en écrivant ce roman-là, parce que veux pas, il était question de disparition de tout petit, et ça venait me chercher vraiment aux tripes. Et là, à un moment donné, bon, faut vraiment juste se mettre au-dessus du texte comme quelqu'un qui regarde la chose et qui... une espèce d'entité neutre, mais qui va tirer les ficelles et tout.
Oui, donc de la distance, mais vous ne ressortez pas indemne?
Pas tout à fait, non. Non, il y a des sujets qui nous hantent un peu plus longtemps que d'autres, c'est sûr.
Donc l'écriture, un peu comme une souffrance ou comme une délivrance?
Je dirais plus délivrance, parce que il y a des moments difficiles quand on écrit toujours, et a fortiori quand on choisit des sujets comme les miens. Mais en même temps, il y a le plaisir de l'écriture à travers tout ça. Il y a le plaisir de dire, bon, OK, je m'en vais là, et j'y suis presque arrivée, parce que la perfection n'existe pas. Et le plaisir de tisser le texte, de tisser l'intrigue, de se rendre compte qu'à un moment donné, il y a des mécanismes qui nous échappent un peu. Et on arrive à des... parfois, à certains croisements qu'on n'avait jamais imaginer, atteindre. Et puis bon, le plaisir de l'écriture, heureusement, vient contrebalancer tout ça.
Bon, je retiens néanmoins le plaisir d'écrire.
Oui.
Et je vous confirme le plaisir de vous lire.
Merci.
Merci beaucoup, Andréa Michaud, d'être venue nous parler de ce nouveau roman « Proie ». P-R-O-I-E-S, je précise, ce nouveau roman qui est apparu aux éditions Rivage Noir et grâce auquel on vous retrouve en ce moment en France, à Lyon, au festival Quai du Polar. Merci encore.
Merci.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.